Vous êtes sur RTL. Caroline Dublanche sur RTL.
On vous retrouve, Frédéric, et ça réagit beaucoup hein, au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Il y a trois personnes qui s'en attendent déjà et qui voudraient vous parler. On va les accueillir, bien sûr. Et puis peut-être, j'espère, aussi des enseignants, orthophonistes, peut-être pédopsies. J'aimerais bien 09 69 39 10 11. Par rapport à un problème de dysphasie, donc c'est un retard de langage, un trouble du langage. Finalement, votre petite fille a redoublé la dernière section de la grande section de maternelle et déjà on vous demande pour la rentrée prochaine, va-t-elle dans une classe de cours préparatoire classique ou une orientation en Ulysse, une classe spécialisée pour des enfants qui ont des difficultés avec bien sûr des programmes adaptés. Donc alors moi j'entends derrière ça et ça me crève le cœur parce que malheureusement c'est un problème voilà, on est en plein dedans, on parle du problème des hôpitaux, de la médecine. Mais tout ce qui concerne la prise en charge aussi, la psychiatrie, les CMP, les CMPP pour les enfants, y a aussi une souffrance là. On le voit quand vous dites que vous étiez obligé de faire 100 km pour pouvoir consulter un orthophoniste, que le centre du langage il y a un an d'attente, et que là je parlais de pédopsychiatre, vous me dites c'est très compliqué. Vous avez déjà tenté
conventionné. Oui. En fait, on avait tenté avec le papa quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'elle était très très dure, très violente. Ça a été très dur entre 3 et 4 ans.
Oui.
Et à l'époque, on nous a reçus. Donc c'était la secrétaire qui a fait un état des lieux, on va dire administratif, et qui nous a écouté un petit quart d'heure et qui a dit bon, d'après ce que vous me dites, il y a rien d'alarmant. On a des cas bien plus urgents que vous à traiter. Voilà. Et du coup, récemment, l'orthophoniste m'a renvoyé sur un CMP et c'est pareil. Elle a pas été. Ils ont des enfants avec des difficultés encore plus.
Certainement.
À passer en priorité aussi. Donc,
les CMPP, comme les CMP, malheureusement, sont débordés. Beaucoup ne trouvent plus professionnels.
Et puis, nous, à notre niveau, on ne peut pas prendre des consultations privées. C'est pas possible.
Non, puis c'est bien les CMPP. Enfin, ils travaillent en équipe et c'est bien. Il peut y avoir un bilan de l'enfant. Et l'orthophoniste, les orthophonistes travaillent souvent en réseau avec les centres médico-psychopédagogiques, elle pourrait pas un petit peu essayer d'avoir un rendez-vous.
Elle nous avait obtenu un rendez-vous au CMP et puis par la suite, il y a eu deux choses en fait. On n'était pas forcément prioritaire et puis il y a autre chose aussi, c'est que c'est difficilement compatible, en tout cas avec mon travail, de l'emmener sur des horaires de bureau en fait.
Ah, oui.
Donc les mercredis ils ne reçoivent pas, alors que c'est justement le jour où éventuellement les papis mamies. Non, c'est fermé le mercredi, en tout cas dans mon département. Et ils reçoivent le lundi, mardi, jeudi, de 10h à 16h. Donc,
et quelqu'un ne pourrait pas l'amener là?
Non, parce qu'elle n'a pas de reconnaissance handicapée, donc les ambulances ne sont pas prises en charge.
Non, mais quelqu'un, je ne sais pas si vous avez de la famille à côté. Parce que le risque dans ces cas-là, il faut bien sûr, si on part du principe qu'un retard de développement, c'est un symptôme qui peut exprimer aussi au-delà, il faut écarter tous les problèmes neurologiques, enfin ça c'est évidemment la base, et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez vu un neuropédiatre, mais ça peut être aussi, autre hypothèse, le signe d'une souffrance, de quelque chose qui ne peut pas s'exprimer autrement. D'où l'intérêt, c'est très bien qu'il y ait une prise en charge sous forme de rééducation avec l'orthophoniste, mais quelqu'un qui ait une vision un peu globale de l'enfant. Ce qu'on perd de vue dans ces cas-là, et plus particulièrement quand on est, je vous dis, dans ces enfants dits 10, ça résume beaucoup de choses, et c'est un peu le risque après, c'est de les cataloguer. Et où on oublie qu'un enfant, déjà c'est un être en évolution par définition, et que rien n'est jamais figé, et d'avoir un regard, vous voyez, c'est un peu comme le médecin généraliste au milieu de tous les spécialistes, qui a un regard global sur l'histoire de l'enfant, et pas seulement sur son symptôme, en vous recevant, en écoutant l'enfant, dans son histoire et dans sa singularité. Parce qu'après, on traite des symptômes, mais il y a toujours une histoire derrière tout cela. Et l'enfant, il est unique. Bon, vous dites, vous, ça, c'est votre fille unique, mais par définition, l'enfant est unique. Et c'est bien d'avoir un regard un peu aussi comme cela, au milieu de tous ces spécialistes, parfois. Vous voyez ? C'est en ça qu'un... Ça peut être important qu'il y ait un peu une écoute plus globale et plus dans le temps, finalement. Parce que vous me dites que dès l'âge de 2-3 ans, ça a commencé, quoi. C'est ça, vous avez ressenti un peu des difficultés, mais au fond, qui vous, c'était difficile à gérer. Mais quand vous avez rencontré des spécialistes, vous ont dit, bon, ça...
Bah, au début, on nous disait, vous inquiétez pas, ça viendra l'année prochaine. Et puis, bah, vous inquiétez pas, ça reviendra l'année prochaine. Et puis, bah, en fait, ça fait 4 ans qu'on nous dit ça.
Oui, oui. Ça, c'est vrai que c'est très décourageant, je comprends. On va accueillir des parents, si vous le voulez bien, Frédéric, qui sont avec nous. Et ça serait bien que vous échangiez ensemble. Bonsoir Sonia.
Bonsoir Caroline.
Merci beaucoup d'avoir réagi aussi vite à l'appel de cette maman, hein, de Frédéric qui est avec nous et qui est assez désemparée par rapport à la situation de sa petite fille. Vous êtes passée par là, Sonia, parce que vous avez un fils.
Alors, j'ai un fils qui a aujourd'hui 14 ans.
D'accord.
Et effectivement, alors c'est un peu le même parcours que cette maman. Là, je ne me rappelle plus son prénom, je suis désolée.
Frédéric.
Frédéric,
qui vous écoute.
Voilà, ça sera plus simple. Donc oui, je voulais témoigner pour un peu aussi la rassurer et lui expliquer aussi comment ça fonctionnait. Moi, j'ai mon fils également en maternelle. Il a redoublé la dernière année de maternelle. Bon, il y avait une immaturité, il y avait des problèmes de langage aussi.
Oui.
Et donc, du coup, on a préféré le faire redoubler. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très, enfin qui était compliqué pour mon fils. Alors on a commencé à nous parler de classe Ulysse. Nous on a longuement hésité avec le papa. On l'a laissé passer en primaire. Il a fait son CP, CE1, CE2, mais bon, il y avait trop de retard pour qu'il puisse suivre une scolarité comme tous les autres enfants. Et la question revenait régulièrement pour le mettre dans une classe Ulysse. Alors c'est ce qu'on a fait et je regrette pas parce que effectivement plus ils grandissent, les enfants prennent de plus en plus conscience aussi de leurs différences.
Oui.
Quand ils sont petits, en maternelle, là, pour l'instant, le regard n'est pas du tout le même. Ils sont pas forcément moqueurs sur les difficultés. C'est pas à ce niveau-là pour moi. Enfin, en tout cas, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est vraiment en grandissant. Enfin, c'est vraiment. Enfin, voilà, les dernières années de primaire. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est difficile à faire ses choix parce qu'on se pose toujours la question est-ce qu'on fait le bon choix ou le mauvais choix ? Parce qu'on veut aussi, enfin, on se dit, il va peut-être y arriver, comme tout le monde, mais on sent quand même que c'est pénible aussi pour l'enfant et ça leur demande aussi, effectivement, énormément d'énergie, plus que les autres, parce qu'ils sont obligés de se concentrer beaucoup plus.
Oui, c'est vrai.
Et ils y arrivent.
Ça les fatigue beaucoup, c'est vrai.
Oh, ouais, oui, voilà. Et du coup, le fait de les mettre en Ulysse, ça les apaise aussi. Ils ont un parcours qui est adapté à leur propre niveau. Voilà, il n'y a pas de comparaison et ils peuvent avancer à leur rythme. C'est ce qui est important pour eux en fait.
Oui, je comprends. Je comprends très bien ça pour avoir eu autour de moi comme ça des enfants qui se sont littéralement épanouis hein, en Ulysse, voilà. Alors qu'ils étaient très malheureux, très même déprimés, avaient une très mauvaise image d'eux dans le circuit classique, parce que c'est extrêmement décourageant et déprimant de ne pas réussir à faire les choses demandées là où ils voient leurs petits camarades le faire. Donc, en ce sens, vous avez raison. Comment va-t-il aujourd'hui, Sonia, votre fils ?
Alors, aujourd'hui, il est au collège. Il est toujours au collège en classe Ulysse. Il continue. Alors, lui, il s'épanouit parfaitement dans ses classes. Il n'a pas eu vraiment d'angoisse ou mal vivre le fait qu'il soit placé dans ses classes. Il avait toujours son petit groupe de copains qui étaient dans les classes, on va dire, générales. Et les enfants l'ont toujours accepté. Il a toujours été inclus dans les groupes. Alors aussi, les classes ULIS sont intégrées dans le système scolaire général. C'est pas écarté.
Oui. C'est
donc
ça.
Donc pour la maman, enfin pour Frédéric.
C'est-à-dire que vous pouvez préciser quand vous dites qu'elles sont, c'est pas écarté, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que c'est des classes. Enfin, c'est les enfants, par exemple, si, enfin moi, il a été donc en ULIS en primaire, mais c'était une classe ULIS dans l'école primaire, mais il est intégré avec tous les autres enfants des classes générales CM1, CM2, enfin CP. Vous voyez, c'est pas une institution à part. Voilà. Là, au collège, alors c'est pareil. Alors au collège, c'est sous une autre forme. Ils sont, on parle d'inclusion. ULIS, c'est de l'inclusion, si vous voulez. Donc en fait, ils sont inclus au collège en ULIS, mais ils font partie de matières d'une classe de générale dans certaines matières qui sont choisies par la prof qui donne les cours en ULIS, qui dispense. Je ne sais pas si vous comprenez très bien.
Si. Enfin, moi, je suis Frédéric. Vous aussi. On a un message sur la page Facebook qui revient sur ce que vous êtes en train de nous expliquer, Sonia.
Oui, c'était Marie-Jeanne qui disait qu'en fait, l'ULIS, c'est pas une classe, mais un dispositif. C'est-à-dire que l'enfant est inscrit dans une classe. Dans une classe habituelle, et va pour certaines matières sur le dispositif, souvent le maths et français, c'est des cours qui sont un peu en plus à côté, un peu comme du tutorat finalement.
Alors ça, c'est au collège. Au collège, ça fonctionne comme ça. En primaire, c'est une classe ULIS.
Une classe à part, d'accord.
Voilà. D'accord. On va ensemble.
Je vous propose, mais restez avec nous, Sonia, parce que vos informations sont importantes. Je vous propose qu'on accueille Nathalie, qui est enseignante, justement, en classe ULI. Merci beaucoup d'avoir appelé, Nathalie. Bonsoir.
Bonsoir, Caroline.
Bonsoir. Alors, il s'est dit beaucoup de choses ces classes ULI.
C'est toujours un peu difficile à définir, mais
peut-être partons parce que de l'interrogation de cette maman, de Frédéric, qui confrontait à sa petite fille. Donc votre petite fille, elle a 6 ans, elle a redoublé donc la dernière section de maternelle et déjà mi-novembre, on demande à cette maman et à ce papa de se prononcer pour l'année prochaine.
Alors, c'est vrai que on demande très tôt dans l'année aux parents de prendre des décisions quand il s'agit d'une nouvelle orientation, parce que la MDPH met, par exemple, ici dans mon département, entre 4, 5, 6 mois à lire les dossiers et donner une décision. Donc, ça dépend des départements, des gros départements, je dirais, comme le Rhône ou sans doute la région parisienne, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner une décision, prendre une décision assez tôt. Mais je pense que janvier, février, il faudrait que Frédéric se renseigne des délais de la MDPH de son département.
Maison départementale des personnes handicapées.
Voilà, ce qui lui permettrait de savoir à quel moment elle doit déposer le dossier en dernier délai, quoi.
Ce qui peut lui laisser du temps. J'ai récemment pris contact avec une association qui s'appelle APDIS, qui est une association avec un réseau apparemment national. Mm-hmm. Et il me disait que moi, dans mon département, elle me disait qu'il était grand temps, en fait, début janvier, déposer le dossier, qu'il était déjà grand temps de faire. Ouais. C'est impressionnant,
Oui. C'est tout le temps comme ça dès qu'il y a une orientation. Par exemple, fin primaire ou fin collège, c'est toujours pareil.
Alors vous, Nathalie, dans votre classe, vous avez des enfants de quel âge ?
Caroline, ce n'est pas une classe, c'est un dispositif. Exactement.
Alors,
c'est
vous voyez, je ne sais pas, Sonia me disait que c'était au collège, mais qu'apparemment, au primaire, c'était une classe. Donc, j'avoue que je suis un peu perdue.
Normalement, en primaire, ça fonctionne comme en collège. Les enfants sont inscrits en classe ordinaire, c'est-à-dire le CM2B ou la 6e A, mais ils n'ont pas, entre guillemets, les capacités à suivre tous les cours. Sinon, ils ne relèveraient pas de l'ULIS. Et sur les cours qu'ils ne peuvent pas suivre avec les enfants de leur classe, ils sont regroupés dans une salle avec l'enseignante ULIS, ce que je fais moi, et où là, ils vont travailler les cours pour lesquels ils ont plus de difficultés.
D'accord.
À leur rythme,
mais ça, dès le primaire,
adaptée.
Parce que pour oui, vous oui. parler de cours au collège, on comprend selon les matières, oui. mais dès le primaire, donc ils sont dans une classe ordinaire, oui. et oui. pour certaines parties du programme,
voilà,
il y a une enseignante. D'accord.
Voilà.
Vous aviez connaissance de cela, Frédéric, de ce dispositif ?
J'ai découvert ça il y a très peu de temps, effectivement.
D'accord.
Oui,
D'accord.
Oui, oui.
Moi, je vous inviterai à aller visiter l'Ulysse à laquelle pourrait prétendre votre fille, aller rencontrer l'enseignante et voir un peu comment vos impressions, c'est important, je pense.
Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, d'accord.
Bah oui, oui, je pense que vous pouvez aller demander à rencontrer, voir la salle, peut-être emmener votre fille. Enfin, je pense que c'est possible. Moi, je le fais.
D'accord.
Alors, moi, je suis en collège, par contre. Je
D'accord.
réponds à votre question, Caroline.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous avez eu des enfants, donc, présentant comme ça des problèmes de dysphasie, de troubles du langage, retard de langage ?
Non, pas de dysphasie. Non. Des dys, oui, mais...
C'est ça, moi, qui m'interroge, parce que c'est pas rien, le retard de langage. C'est quand même très spécifique. C'est pas... si vous voulez, ça tient à la nature même du langage. L'accès au langage, c'est pas seulement l'accès à la capacité de dire des mots. C'est beaucoup plus que cela. Quand un enfant se met à parler, ça signifie plusieurs choses. C'est d'abord qu'il est devenu un être autonome. Et qui est conscient d'être quelqu'un, d'avoir des désirs en propre, qu'il peut communiquer à un autre, que cet autre est pour lui complètement distinct de lui-même. C'est aussi l'accès à la symbolisation, c'est-à-dire faire exister les choses quand elles ne sont pas là, grâce aux mots. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que c'est important d'avoir un regard plus global, de type... un peu psychanalyse, psychologue pour enfants, parce que de pas tout de suite tomber dans l'aspect rééducation, parce que moi ce que je vois souvent, c'est des enfants et des parents qui sont épuisés, découragés par les rééducations successives, mais parfois on n'a jamais traité les racines du problème. Parce que si vous voulez, c'est pour ça que je vous demandais où elle en était de son développement. Si un enfant déjà a du mal à s'habiller tout seul, à s'habiller, à faire sa toilette tout seul, si vous voulez, accéder au langage, c'est déjà se penser comme un être distinct. Si vous voulez, au fond, le langage, on peut le rééduquer, mais on n'apprend pas à parler. On parle quand on en a le désir aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, on peut rééduquer, on peut forcer à parler, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan ? Et je trouve que ça vaut le coup. Enfin, c'est dommage de passer à côté de ça. Il faut peut-être voir aussi de façon un peu plus large. Voyez.
Caroline, si je puis me permettre.
Nathalie,
Je ne sais pas, Frédéric, si vous connaissez les CESAD. Vous savez ce que c'est qu'un CESAD ?
Non, mais c'est un mot que j'ai entendu prononcer pendant la réunion avec le psychologue scolaire, mais je ne sais pas ce que c'est.
C'est un service de soins où, justement, Caroline, vous parliez de globalité, où là, il y aura un éducateur, une psychomotricienne, une orthophoniste, une psychologue. Selon les besoins de votre fille, interviendra l'un ou l'autre. Et l'éducateur sera le pivot par rapport à ces différentes personnes qui travailleront avec votre enfant.
Donc, ça c'est intéressant. C'est dans un pôle médical indépendant, vous voulez dire ?
Alors, des CESAD, c'est souvent des associations. Je connais par exemple la PAGE qui...
Il pourrait se renseigner où, Frédéric ?
Je pense que si vous demandez, peut-être les maîtresses, elles connaissent, non ?
La psychologue scolaire
référente.
Pourrait...
Je suis bête, l'enseignante référente. Vous avez dû rencontrer l'enseignante
aussi.
Référente.
Oui.
À la
On va la rencontrer. On va la rencontrer en janvier. Oui.
En janvier, vous allez avoir vous allez le rencontrer dans le cadre de la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation.
C'est pour ça qu'en tout cas, je trouve que c'est bien et qu'il y ait. ce travail un peu en équipe autour de l'enfant. C'est ce qui est fait aussi dans les CMPP, Centres Médico-Psychopédagogiques. C'est-à-dire, au fond, faire un peu un bilan global de l'enfant. Parce que vous voyez, votre fille, elle, par rapport aux autres enfants, elle se développe plus lentement, mais on ne peut pas demander, à la limite, un enfant à parler, à s'exprimer correctement, si déjà il n'est pas autonome sur le plan des actes de la vie quotidienne. S'habiller, mettre ses chaussures, se laver. Donc, quand on parle d'immaturité, il faut remettre aussi les choses à hauteur de l'enfant. Parler d'immaturité chez un enfant, ça peut paraître paradoxal. Mais si vous voulez, y a, par rapport au développement classique, on a des repères de l'enfant, il y a une forme d'immaturité. Mais ça ne se travaille pas en se rééduquant. Et ça ne se travaille pas seulement en orthophonie. C'est pour ça que le problème, c'est que là, on n'est pas dans la dyslexie, on est dans un trouble, un retard du langage, une difficulté à parler. Donc, rééduquer le langage quand il a du mal à exister, vous voyez, c'est là où ça interroge. Et où finalement, on voit des rééducations sur des années, où les enfants se découragent, les parents se découragent, et en fait, on passe complètement à côté du problème. C'est là où n'oubliez jamais cette vision globale de votre enfant, parce que c'est normal en tant que parent, évidemment on diagnostique un symptôme et après tout tourne autour de ce symptôme, mais on oublie que le symptôme c'est aussi une façon chez l'enfant comme chez l'adulte, mais particulièrement chez l'enfant, d'exprimer quelque chose qu'il ne peut pas encore exprimer.
D'accord.
Et ça vaut le coup de se pencher là-dessus. On va accueillir, merci beaucoup, beaucoup Nathalie pour toutes ces informations. Vous pouvez rester avec nous parce qu'on va également accueillir et conclure avec vous, Rosario. Bonsoir Rosario. C'est bien d'avoir un papa dans cet échange aussi.
Bonsoir Caroline, bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors vous avez un fils qui est dyslexique, il a quel âge Rosario?
Alors Enzo, aujourd'hui, il est né en 2004, il a aujourd'hui 17 ans.
D'accord.
Et il est... on va dire comparable à la jeune fille de Frédéric, qui avait donc ses troubles du langage.
Oui.
Donc Enzo est né très grand prématuré. On a tout de suite détecté. Bon, on a 5 enfants, donc on a tout de suite détecté chez Enzo des troubles du langage, des troubles dyspraxie.
Oui. Mais chez un très grand prématuré, il y a souvent des troubles du développement qui se rattrapent avec le temps. Mais... pas toujours. Vous m'entendez?
Oui, en effet, on peut retrouver beaucoup de choses de similaires pour des enfants handicapés.
Oui.
Et en fait, si vous voulez, Enzo, on va dire, avec tout ce que j'ai écouté depuis le début avec Frédéric, Enzo est très similaire à sa jeune fille. Nous, on avait par contre juste fait le choix. Puisqu'il avait un retard de 2 ans à peu près du langage par rapport à d'autres enfants. Et en moyenne section, on avait tout de suite détecté, on avait parlé avec, le psychologue, la maîtresse. Et on avait pris la décision de le passer quand même en CP par rapport à ses copains, même si des fois en récréation, il se retrouvait un peu seul. Mais il avait quand même ce côté... où il avait vraiment envie d'apprendre. Même si, par rapport au retard et au langage, il n'arrivait pas à comprendre beaucoup de choses pendant les séances.
Oui.
Mais il était quand même présent. Il aimait l'école.
Ça, c'est très
bien. Et aujourd'hui, c'est un peu similaire à l'enfant de Frédéric. Oui. J'ai oublié son prénom.
Frédéric, elle n'a pas donné le prénom de sa petite fille. C'est pas grave, sa petite fille qui a 6 ans,
Voilà. Et en fait, si vous voulez, par rapport à la première année de primaire, Enzo a tout de suite eu énormément de difficultés. Donc, c'était un primaire classique au CP. Ouais. Et donc, l'année suivante, sachant déjà à la moyenne section qu'il y avait des difficultés, qu'on allait voir comment ça se passait en CP.
Oui.
Donc, l'anticipation est très importante, Frédéric. Ne vous inquiétez pas de prendre des décisions par anticipation par rapport à l'enfant, parce que c'est quand même vous qui le connaissez le mieux, même par rapport à des professionnels, par rapport les personnes qui vont suivre l'enfant, parce que c'est quand même vous qui êtes au quotidien avec lui, avec l'enfant, et c'est vous qui voyez l'évolution, parce que c'est des enfants en fait qui ont des troubles du langage, mais qui vont être un peu comme des gruyères. ils vont faire des sauts dans le l'apprentissage.
C'est ça.
Ils vont apprendre des choses. Alors tout d'un coup, vous êtes émerveillé. Et à côté de ça, il y a des choses basiques qu'il va pas pouvoir faire, donc vous êtes un peu surprise. Donc voilà, c'est un témoignage que je voulais vous donner. Ne vous inquiétez pas. Respect, sereine, confiante.
Ouais.
Voilà, confiante surtout par rapport à votre enfant, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Donc
d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de. Merci beaucoup, Rosario, pour ces paroles rassurantes. Bon, on n'aura pas répondu à toutes vos questions, évidemment, Frédéric, ce soir.
Non, c'est très gentil. Merci aux intervenants.
Merci à Sonia aussi, qui nous a parlé de son fils qui est en Ulysse et pour qui ça se passe très bien. Et à Nathalie, qui est enseignante en Ulysse. Bon courage pour votre petite fille, mais je vous dis, n'oubliez pas, laissez ça, c'est pas mal d'avoir un regard aussi d'un...
Que j'ai peut-être trop négligé,
oui. Plus global sur, ce qui est normal, parce qu'on s'attache aux symptômes, mais ce regard un peu plus analytique, psychanalytique sur l'enfant, ça peut avoir du bon, je vous assure. Je vous embrasse. Au revoir, merci à tous.